Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com.
Personnellement, je ne rate jamais une émission de Rapline et je suis content que ce soit la centième. Yo.
Yo. Yo.
Now we come to the rap. This is rap.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale hip-hop. Une émission qui n'aurait sans doute pas vu le jour sans l'aide de Victor Lopez, que nous tenons à remercier tout particulièrement. Cet épisode de Culture Prohibée vous propose donc d'aborder l'histoire de ce mouvement artistique pluridisciplinaire unique qu'est le hip-hop, mouvement que nous allons aborder, excusez du peu, en compagnie d'Olivier Cachin, le spécialiste français en la matière, autrefois animateur de l'émission culte Rapline, rédacteur en chef de L'Affiche, premier périodique français consacré en grande partie au rap, auteur d'un nombre incalculable d'ouvrages sur le sujet, dont très récemment, par exemple, Rap in France, l'émergence du rap dans les années 90, disponible chez le Castor Astral. Et c'est donc avec Olivier Cachin que nous allons nous entretenir longuement pour aborder à la fois son travail, mais aussi à travers son travail, l'histoire du hip-hop depuis ses débuts. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur, theextasyoffilm.com, et également sur celui des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr, et puis bien sûr, chez tous les bons libraires. Nous souhaitons donc, pour causer hip-hop, la bienvenue à Olivier Cachin. Bonjour Olivier Cachin.
Bonjour.
Alors Olivier Cachin, vous êtes avec nous aujourd'hui pour aborder, alors on va aborder l'histoire du hip-hop, mais aussi votre histoire, votre parcours, vous qui êtes, comment dire, totalement imbriqué dans l'histoire du mouvement hip-hop dans l'Hexagone. Et je vais remonter très très loin. Moi, je vais remonter jusqu'à votre enfance, parce que j'ai lu dans un entretien que vous aviez accordé qu'à 14 ans, vous aviez eu la BO de Phantom of the Paradise, qui est un film que j'adore, hein, de Brian De Palma, et que vous aviez trippé sur la chanson The Hell of It. Donc les paroles, c'est « Good for nothing, bad in bed, nobody likes you, and you'd better off dead, goodbye ». C'est la chanson qui conclut le film, hein. Et vous expliquiez dans cet entretien que les compos, ça vous fascinait, les paroles, tout ça, et que c'est ça qui vous a motivé à faire une fac d'anglais, parce que vous vouliez comprendre les paroles. Alors quand on sait qu'en France, en plus, on était assez nuls sur les langues étrangères, ça paraît assez étonnant.
Bah oui, c'est vrai que moi, ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours eu ce truc, genre, qu'est-ce qu'ils racontent ? Alors des fois, c'est assez simple, hein, quand c'est les premiers morceaux des Beatles avec 4 mots de vocabulaire, ça suffit. Mais quand ça commence à devenir un petit plus sophistiqué, là, évidemment, ça prend un autre intérêt. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu, depuis Phantom of the Paradise, qui heureusement avait les lyrics, d'ailleurs, si vous vous en souvenez, écrits au verso de la jaquette. Donc depuis ce moment-là, oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pour ambition de déchiffrer les paroles. J'avais même envoyé et reçu en retour une demande pour un groupe un peu obscur qui s'appelait les Doctors of Madness, qui proposait de recevoir les paroles de l'album en écrivant à telle adresse. Et effectivement, j'avais reçu un petit livret photocopié avec les paroles de l'album, j'étais tout content. Donc c'est vrai que pour ça aussi, le rap a été une musique qui m'a fasciné, parce que sa version américaine, bah là, pour le texte, on était vraiment servi. Avec des titres comme The Message, bah là, on rentrait dans un nouvel univers textuel et même visuel, puisque, comme le dirait Lino, le rap, c'est du cinéma pour les aveugles.
Et donc, vous maîtrisez la langue anglaise, même quand vous tombez sur un type qui a un flow complètement hallucinant comme Eminem ?
Bah oui, après, maintenant, c'est vrai qu'avec Internet, si on a des difficultés de compréhension, il suffit de deux clics pour tomber sur des sites comme Genius ou d'autres qui vont vous donner toutes les paroles. Mais c'est vrai que c'était plus amusant et c'était plus un challenge à l'époque où il fallait vraiment remettre le diamant sur le sillon. Et ça m'est arrivé sur certains morceaux de remettre 4 fois, 5 fois, 6 fois. Qu'est-ce qu'il raconte à ce moment-là ? Qu'est-ce que c'est la phrase ? Quelle est l'expression ? C'est aussi un exercice amusant, puis ça permet de plonger encore plus profond dans la musique.
Alors, vous évoquiez The Message, hein, le Grand Master Flash and The Furious Five. Ça, c'est 82, mais avant l'arrivée de The Message, avant, à l'époque, hein, j'ai envie de dire, où vous écoutiez Paul Williams, vous écoutiez quoi d'autre ? Parce qu'à l'époque, le rap n'en était qu'à ses balbutiements, à ses prémices, voilà.
En fait, avant, moi, j'ai vraiment commencé à écouter de la musique consommée, comme diraient les jeunes aujourd'hui, avec la vague punk en 77. Ça m'a happé. Et puis après, bah, c'était vachement. J'ai suivi un peu le flow de cette génération-là avec tout ce qu'on appelait la new wave, qui était un truc assez composite, hein, puisqu'il y avait aussi bien des trucs très très froids et à la limite de l'électronique comme Joy Division, mais aussi de la pop, Human League, Soft Cell, etc. Et en parallèle, beaucoup de reggae aussi. J'aimais bien l'idée, comme c'était une époque où je faisais des cassettes chez moi, j'avais souvent des cassettes avec du chaud et du froid, genre un truc super, super glacial à la Joy Div, suivi d'un morceau de reggae, de culture, ou de ténorceau, ou de groupe ou d'artiste comme ça. Donc c'était un peu les deux musiques que j'écoutais le plus, jusqu'à effectivement que je tombe sur des messages où là, un autre monde s'est ouvert à moi.
Alors, vous parliez de reggae à l'instant, c'est vrai que vous avez aussi beaucoup écrit sur le reggae, on parle toujours du rap vous concernant, mais vous avez aussi beaucoup écrit sur le reggae. Je crois même savoir qu'une de vos chansons préférées, c'est un morceau d'El Kaji, je crois.
Ah oui, Sonny de l'État, là, ça, comme dirait Nougaro, ça met les poils du bras au garde à vous, c'est terrible, cette chanson, elle est extraordinaire.
Une nouvelle galaxie s'ouvre à vous quand vous découvrez The Message. Bon, on se rappelle des paroles, hein, « Don't push me, cause I'm close to the edge ». Enfin bon, voilà, je vais pas le faire parce que je suis moi-même pas un très bon rappeur, mais bon, voilà. Mais est-ce que vous sentez-vous, dès 1982, là, quand vous achetez ce vinyle, est-ce que vous sentez la révolution musicale arriver ?
Bah, honnêtement, pas tout de suite, parce qu'au début, c'est plutôt un mystère. Parce que moi, quand j'achète le maxi, il n'y a pas de photo. J'avais lu déjà des trucs, évidemment, sur le hip-hop, mais j'entends parler de scratch et de DJ. J'écoute le disque, je ne vois pas trop où ça se trouve. Et de fait, il n'y en a pas, c'est que des musiciens qui jouent. Hein. Donc, c'est plutôt une perplexité. En fait, j'ai passé les années qu'on suivait à essayer justement de comprendre tout ça. J'étais au concert New York City Rap Tour au Bataclan. Il y avait Futura 2000, Bambata, Mick Jones, The Clash. J'ai vu le concert de Grandmaster Flash au Palace. Mais tout ça, ça restait encore assez mystérieux. C'est vraiment au bout de quelques années que j'ai commencé vraiment à comprendre le fonctionnement et puis surtout à découvrir toute la galaxie d'artistes qu'il y avait autour de ce disque séminal.
broken glass everywhere. People pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dance to tango, skip the life and dango. A silk on print to seem to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she can tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so did it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing bad, stole my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Close to the edge, I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
Et d'ailleurs, votre découverte des musiques noires, Olivier Cachin, vous la devez aussi en grande partie à une émission mensuelle qui est aussi une émission faite par, comme vous, hein, deux grands passeurs de culture populaire qui ont œuvré un peu partout, c'est-à-dire aussi bien dans la BD via Métal Hurlant que dans le rock, avec les Enfants du Rock. Je parle de Philippe Manœuvre et Jean-Pierre Dionnet, grâce à l'émission Sex Machine.
Eh oui. Ah bah oui, là c'est le flash. Bah le clip, de, c'est comme ça que je vais voir effectivement le clip de Grandmaster Flash de Furious 5, qui est très artisanal, mais que j'ai dû voir 200 fois. Et puis oui, Earth, Wind & Fire, George Clinton, Rick James... C'est vraiment la découverte. Avec ce côté, ce qui est amusant, c'est qu'au début, notamment Rick James dit « Ah, c'est ridicule !» Et c'est génial en même temps, parce qu'il y a un côté kitsch, mais en même temps, c'est irrésistible. Et comme je sortais tout juste, justement, de musique beaucoup plus blanche et beaucoup plus européenne, c'est vrai que cette transition était assez marrante, parce que moi, en 77, j'écoutais les Pistols, et en même temps, quand dans des soirées, il y avait Saturday Night Fever, je trouvais ça nul, et en même temps, il y avait un truc... Il y a un truc qui vous dit « Ah ouais, quand même, c'est pas mal ». Donc là, le grand plongeon, il a été fait effectivement grâce à Manœuvre et Dionnet, Sex Machine, où là c'était encore une nouvelle aventure. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que quand il y a eu les premiers clips de Michael Jackson, en l'occurrence Billie Jean et Beat It, c'était dans Sex Machine. Mais une fois arrivé au clip de Thriller, on leur a dit « Non, c'est plus pour vous les gars, maintenant c'est pour du 20h30 sur le samedi soir ». Avec Michel Drucker.
Exactement, j'ai le souvenir, c'est Champs-Élysées dans lequel on diffuse Thriller. Quelle mémoire, vous me rappelez des souvenirs. je me rappelle qu'il m'avait terrorisé d'ailleurs le clip à l'époque, hein. J'étais gamin, moi le John Landis là m'avait terrorisé. Et bon,
ah c'était quelque chose. Ouais.
Ah ouais, c'était impressionnant. Et d'ailleurs parallèlement, alors on parle de Sex Machine, c'était 86 je crois, dans ces eaux-là, moi je me rappelle j'étais tout gamin. C'est à cette époque qu'après quelques piges, vous vous retrouvez à travailler dans les pages musique du quotidien Le Matin de Paris. Quel souvenir vous gardez de cette expérience ?
Bah, un truc qui va paraître totalement désuet à l'âge d'Internet, c'est que j'arrêtais pas de me dire « Putain, c'est dingue, j'écris un papier à 5h du soir et le lendemain matin, il est dans toute la France. » Ouais, ben, 30 ans plus tard, t'écris n'importe quoi et c'est dans le monde entier, dans la seconde qui suit. Donc, évidemment, ça peut paraître ridicule, mais à l'époque, c'était quelque chose, cette instantanéité, enfin, si on peut dire, de la presse quotidienne, c'était quelque chose d'assez fabuleux. Et puis, le fait de travailler aussi dans la presse, dans un quotidien, avec tout le côté ruche qu'avait cette rédaction, qui était... D'ailleurs, c'était marrant parce qu'il y avait une grosse connexion hip-hop, puisque c'était les fameux locaux de Paco Rabanne, pour la fin du Matin de Paris. C'était dans les locaux, Boulevard de la Villette, où Paco Rabanne avait ses ateliers et où les premiers danseurs hip-hop français venaient s'entraîner. Donc, c'était assez amusant de voir cette connexion-là. Et oui, c'était une époque fabuleuse.
Ouais, d'ailleurs, on voit un peu les liens, les connexions entre la mode et puis le monde du hip-hop, la culture hip-hop, la danse et tout, dans la série Le Monde de Demain, assez récente, là, où on voit Joey Starr, qui est plus repéré, qui va faire des tournées de breakdance et tout, qui est plus repéré, en fait, pour ses talents de danseur, au départ.
Oui, et puis, effectivement, qui a toujours été très proche des milieux de la mode. Quand le premier clip, Le Monde de Demain, qui est sorti en 90, fin 90... bon, il y a plein de gens qui étaient là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un rappeur habillé en Gaultier? Bah ouais, il y avait cette connexion-là qui à l'époque semblait assez surprenante pour plein de gens.
Et alors, je reviens sur votre parcours, Olivier Cachin, la fin des années 80, tout s'accélère, j'ai envie de dire, il se passe pas mal de choses dans votre vie, et en particulier, il y a quelque chose, moi, qui est assez impressionnant, je trouve, c'est la création de L'Affiche. Vous êtes cofondateur de ce magazine dès la fin des années 80, L'Affiche qui devient ce qu'on appelle le premier magazine des musiques urbaines. Alors au départ, c'est un gratuit, après il devient payant, vous devenez rapidement rédacteur en chef. Moi, je me rappelle, je crois que c'était une coup avec Spike Lee, l'une des premières, si ce n'est la première, et vous parlez de rap. Alors qu'à l'époque, enfin, je veux dire, il y a eu un peu de, on pouvait choper un peu du travail de Dynasty, il y avait eu Destroy Man et Johnny Go, mais enfin, c'était un truc totalement confidentiel, le rap français.
Ben oui, ça a vraiment commencé pour moi l'an zéro du rap français, je dirais professionnel, c'est 90 effectivement, et L'Affiche existe depuis déjà 2 ans, mais oui, on avait déjà fait la première couverture rap qu'on avait fait, c'était KRS-One, dans le format gratuit, format tabloïd, Libération, 16 pages, c'est assez marrant parce que l'aventure de L'Affiche, là aussi, c'est un accident industriel, comme dirait TF1, sauf que là, il a été heureux, dans le sens où au début, c'était un truc qui était censé être juste justement, comme son nom l'indiquait, bah, une collection d'affiches de concerts, pour annoncer des concerts. Et puis avec Franck Fatalo, qui est le fondateur, on s'est dit, bah ouais, ça serait quand même plus marrant de mettre un petit peu d'articles. Donc au tout début, il y avait un peu tout, c'était culture, musique, cinéma, même théâtre, expo. Et puis très vite, on a recentré sur la musique. Et effectivement, comme il y avait cette aventure qui commençait réellement après les prémices que vous évoquiez, Destroyman, Johnny Go, Nec Plus Ultra, etc., bah avec Rapatitude, avec NTM, avec Solar, bah il y avait quelque chose qui commençait. Et donc on s'est vachement attarder là-dessus, dans un premier temps, surtout sur rap américain, et puis au fur et à mesure que le rap français prenait de l'ampleur, ça en a pris aussi dans la pagination de L'Affiche.
D'ailleurs, à l'époque, bon, moi je me rappelle bien de ça, Olivier Cachin, je me rappelle bien parce qu'à l'époque, moi je suis passé du, comme vous disiez un peu tout à l'heure, du rock, du punk un peu. On écoutait, nous, les Bérus, on écoutait tous ces groupes indés qu'on aimait bien, ces groupes de rock français. Et on est passé, moi ça a été une claque, la découverte des premiers Public Enemy, des artistes Def Jam, les Beastie Boys, même Run DMC, qu'on avait tendance un peu à dénigrer parce qu'ils s'étaient à coquiner avec Aerosmith, alors qu'en fait, aujourd'hui, je trouve le morceau très sympa, Walk This Way, là, mais c'était parallèlement, donc il y avait un développement de la culture hip-hop qui venait des États-Unis, hein, puis il y avait eu des précurseurs, Curtis Blow, Sugar Hill Gang, Kool Herc, tout ça, Afrika Bambaataa, on commençait à voir arriver tout ça chez les disquaires, et en même temps, il y avait un rejet de cette musique. Moi, je me rappelle, même le disquaire chez qui je dépensais plein de pognon me disait que ce que j'écoutais, ce n'était pas de la musique. Je me rappelle de papier dans Rock and Folk, où vous avez travaillé d'ailleurs, je crois, dans Best aussi, qu'on a oublié aujourd'hui parce qu'il n'existe plus, mais bon, on tapait dur sur le rap quand même, c'était pas une musique qui était accueillie à bras ouverts.
Ah bah, moi ça a été ma grande surprise en tant que journaliste, parce que je me disais bon ben voilà une musique qui est nouvelle, qui a une façon de faire qui finalement a un lien avec le punk, avec le côté do it yourself, et on n'a pas besoin d'être virtuose, il y a une histoire qui est racontée dans les morceaux, l'histoire des gens qui la font est hallucinante aussi. Forcément, ça va prendre justement auprès des critiques musicales, alors que ça a été tout le contraire. Ça a été genre, on avait l'impression d'une invasion dans leur précaré, et c'était un peu pas de ça chez nous. Oh là là, oh, puis de toute façon, c'est une mode, ça va durer 6 mois. Qu'est-ce que c'est que ces guignols qui tournent sur la tête, sur des cartons? Enfin, tous les clichés, on y a eu droit, et ça a duré très longtemps, effectivement. Et c'est vrai que ça soit la presse rock ou les grands médias, il y avait un côté cordon sanitaire autour de cette musique qui n'en était pas une, comme vous le disiez, hein, puisque hein, tout ça, c'est facile, hein, parler sur des musiques qui existent déjà. Sauf qu'évidemment, c'était un petit peu plus compliqué que ça. Et c'est amusant de se dire aujourd'hui, quand on voit la place qu'a pris la culture hip-hop, de se rappeler de ces longues années de haine, parce que c'était parfois de la haine ou de mépris de classe, plus simplement, de la part de plein de gens. Et tous ceux qui ont vécu cette époque-là s'en souviennent effectivement, y compris Dynasty, qui est un des pionniers, et qui, quand il y a la fin de l'émission HIPHOP avec Sidney, s'entend dire partout mais arrête, rentre chez toi, t'as pas compris, c'est fini. Voilà, maintenant c'est terminé, vous êtes bien amusé, maintenant rentrez chez vous et place à la vraie musique. Évidemment, l'histoire en a décidé autrement.
See me, you can't sound like Shan or the one Marley. Cause Shan and Marley Marlin, my rhyming like the gay. Picking up the mic, man, them don't know what to say. Saying hip hop started out in Queensbridge. Saying lines like that, man, you know them countless. So tell them again, me come to tell them again. Guan. Tell them again, me come to tell them again. Tell them again, me come to tell them again. Guan. Tell them again, me come to tell them. Manhattan keeps on making it, Brooklyn keeps on taking it, Bronx keeps creating it, and Queens keeps on faking it.
Histoire du hip-hop. Tout de suite, les liens cinéma hip-hop se font sentir. Et à l'époque, nous, on découvre des films. On l'oublie un peu, mais c'est aussi, il y a tout un courant de cinéma hip-hop. Je pense à White Style de Charlie Ahern, à Colors même en 88, même à Do the Right Thing, hein, quand il met Public Enemy à fond sur son Ghetto Blaster, là, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, si je vous dis lien entre hip-hop et cinéma ?
Bah, c'est vrai que c'est assez logique parce que effectivement, comme je le disais, il y a ce côté narratif qu'avait beaucoup le rap américain, qu'il a un peu perdu depuis. Mais c'était voilà, ça racontait des histoires et c'est vrai qu'il y avait un côté cinéma. Donc très tôt, il y a eu effectivement. Alors vous parliez de Wild Style, c'est vrai que puis bon, Bond Beat Street, Break Street 84, qui était un film Golan Globus, un petit peu commercial, rigolo, mais qui avait quand même son intérêt. En fait, ce qui est amusant, c'est que la première représentation du hip-hop au cinéma, c'est dans Flash. Et c'est une séquence, mais qui dure. Moi, quand j'avais lu sur le film, j'avais l'impression qu'il y avait genre 10 minutes sur le break. En fait, il y a les Rocksteady Crew en ombre chinoise pendant peut-être 10 secondes, et encore je compte large, mais cette séquence-là, elle a été gravée sur la rétine de tous ceux qui l'ont vue, et c'est amusant parce que c'est une époque où il y avait tellement peu d'informations. Je me rappelle de Joe Starr qui me disait, il y avait un bouquin d'histoire avec un chapitre sur le métro new-yorkais où il y avait une photo d'un métro graffé. Il me dit, j'ai passé des heures littéralement à regarder cette photo minuscule parce que on s'est inventé un univers autour du peu qu'il y avait, et en l'occurrence c'était ces quelques secondes dans Flashdance ou c'était des images éparses dans tel ou tel magazine. Donc c'est marrant de penser à ce dénuement d'images, alors qu'aujourd'hui on est dans une foison justement d'images, de sons, et où tout est à disposition avec les internets. Hein.
Vous disiez justement que le rap a un peu cet aspect cinématographique et tout aujourd'hui, enfin c'est cette manière de raconter les choses. Quel regard vous portez, vous, sur le rap aujourd'hui, qu'il soit américain d'ailleurs ou qu'il soit franco-français, quoi, voilà.
Un rapport plus lointain dans le sens où il y a une telle production, et je dirais même pour ce qui est du rap français, une surproduction, que de toute façon il est impossible de tout suivre, déjà parce que j'ai une vie à côté aussi, et qu'il faut quand même savoir qu'en France, moi j'ai fait un papier pour RFI Musique sur un récapitulatif de l'année rap français en 2022, et donc je vais sur Digneuse pour un petit peu voir la somme de ce qui a pu sortir, et je m'aperçois, je compte, je scrolle la page, plus de 700 projets, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire EP, album, en un an, rien qu'en rap français. Donc il est évidemment impossible de tout écouter. En rap américain, en plus, je trouve qu'il y a quand même moins de disques passionnants ou historiques qu'il y a pu avoir à une époque. Il y a toujours des excellents albums et des excellents artistes, mais encore une fois... quand on commence à parler de mumble rap aux États-Unis, là, moi, je suis déjà parti loin. Donc, évidemment, quand c'est des artistes, que ça soit des survivants d'une autre époque comme Jay-Z, des artistes plus récents comme Kendrick Lamar ou quelques autres, d'accord. Mais bon, encore une fois, c'est n'ayant plus en plus un support mensuel comme l'affiche pour être baigné dans l'actualité, c'est vrai que maintenant j'écoute plus des choses un peu plus, comment dire, qui ont déjà été atteint un certain niveau de, je dirais pas de notoriété, mais de, en tout cas de d'écoulement. Enfin, c'est l'underground est tellement foisonnant que c'est impossible de tout écouter, donc je choisis et je trie un petit peu dans le flot ininterrompu des sorties hebdomadaires.
Ouais, parce que je me rappelle à une époque, vous m'avez fait découvrir des trucs assez déments, Olivier Cachin, Hijack par exemple, des choses comme ça, groupe anglais de rap complètement dingue, où là on était vraiment dans des petites productions. C'est vrai qu'aujourd'hui le rap est devenu, à même, j'ai envie de dire... Il a tellement gagné la partie que nous, en quelque part, les vieux fans de rap, on a un peu du mal à s'y retrouver dans la production actuelle, je trouve, personnellement en tout cas.
Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Internet permettant un lien direct du producteur au consommateur, aujourd'hui, tout le monde peut faire un disque et on a vraiment l'impression que tout le monde le fait en plus. Donc ça veut dire que n'importe quel groupe, même s'il a quelques mois d'existence, peut faire son clip avec son drone et un réel du coin, sortir un album ou un EP, et c'est pas toujours forcément au niveau. Donc c'est sûr que cette espèce de cursus que devait suivre un groupe pour arriver à être signé, à sortir un disque, à faire des concerts, et où ça prenait des mois, et où forcément on apprenait au fur et à mesure, aujourd'hui c'est tellement instantané qu'on va avoir beaucoup de disques dans les productions indé françaises notamment, un peu interchangeables, avec le même type de son, les mêmes prods un peu abstraites. Bon, tout n'est pas passionnant, il faut bien le dire. Mais en même temps, c'est aussi la rançon de la gloire. Quand une musique devient populaire, forcément, beaucoup de gens grimpent dans le train. Ça s'est passé pareil avec la variété française dans les années 70, hein, quand on voyait le nombre de trucs qui sortaient, c'était affolant. Le rap français étant la nouvelle variété, selon la prophétie autoréalisatrice de Maître Gims, on y est, il y a une surproduction. Et il faut faire le tri.
Exactement. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Je vais revenir sur la période de la fin des années 80, parce que c'est celle où après, avec ou sans rock, donc Olivier Cachin, vous vous retrouvez à présenter Rapline, la fameuse émission Rapline de 90 à 93. Mais on va y revenir. Comment se crée cette émission culte, hein, et je le répète, en plus à une époque où le rap n'est pas forcément le bienvenu.
Bah, là aussi, c'est un accident heureux, dans le sens où moi, je travaille effectivement comme journaliste dans Avec ou sans rock, avec Roxane, je fais des reportages sur plein de groupes, donc je suis dans la chaîne, je suis souvent là, et puis le rap américain, à l'époque, fonctionne bien, en fait, ils ont des programmations, thématiques, boulevard des clips, rock, pop, black, et le boulevard des clips black marche bien, donc ils disent, tiens, il y a ce nouveau truc, là, le rap, bon, on va faire une émission d'été, genre 10 émissions pendant l'été 90, et puis comme ça, on pourra cocher la case, nouveau mouvement éphémère qui a duré 6 mois, on était là. Et qui fait la speakerine, quoi. Moi, j'étais là, je propose, je dis, voilà, ce qu'on pourrait faire, parce qu'il n'était pas encore question au début de tourner des interviews ou des reportages, c'était juste diffuser des clips. Et le plus que je propose, c'est de dire, on pourrait sous-titrer les clips américains, justement, pour savoir un peu ce qu'ils racontent. Et donc, c'était parti pour une émission d'été de 10 numéros pendant le désert de juillet-août 90. Sauf que le désert a été long, puisqu'on a duré 3 ans et demi, avec une évolution, puisque une fois la rentrée arrivée, quand on a été prolongé, on a commencé à tourner les premiers clips, on a tourné notamment Lionel D, pour toi le beurre, c'est un des premiers clips qu'on a tourné en quelques heures, EJM, Éléments dangereux, et puis au fur et à mesure, des interviews de groupes américains, même des voyages aux États-Unis pour aller rencontrer des artistes comme Kid Frost, et puis tous ces groupes français à qui on a donné une image qui n'en avait pas, puisque que ça soit Ministère Amer, même Solar, puisqu'on a tourné son premier clip avant le clip officiel de Boule de l'art. On a fait le clip Rapline de Bouche de là avec François Bergeron. Donc tout ça, c'était un truc. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est des années après que j'ai su l'impact que ça avait dans les banlieues. Parce que moi, je suis parisien, je ne suis pas banlieusard. Mmh. Et quand Driver, par exemple, qui est le maire de Sarcelles, un des rappeurs et historiens émérites du rap français, me dit, Olivier, tu ne te rends pas compte, mais quand tu as passé le clip de Traître, de Ministère Amer, il n'y avait personne dans les rues. On était tous devant la télé, on se disait, ça y est, Sarcelles existe, on est là, quoi. Et ça, c'est un truc que je n'avais pas forcément visualisé à l'époque, parce que déjà, il n'y avait pas Internet. Et puis, quand on allait dans le guidon, on avance, nous, on était là, genre, pourvu qu'on soit prolongé encore, parce qu'à chaque fois, on avait l'épée de Damoclès. Encore une fois, comme je vous le disais, ça devait durer 2 mois au départ. Donc, le fait que ça dure 3 ans et demi, c'était un petit miracle. Et d'ailleurs, ce qui a beaucoup surpris les fans de rap, c'est qu'ils ne comprenaient pas comment c'était possible qu'une émission s'arrête au moment où finalement ça commençait, puisque Rapline, ça s'arrête juste avant qu'il y ait le Mia, que ça commence vraiment à percer. Mais c'est parce qu'en fait, M6 n'avait pas du tout une volonté. Enfin, encore une fois, pour eux, c'était un truc... c'était un accident, ça leur coûtait pas cher en production, il y avait un bon écho presse, donc ça a continué comme ça, mais il n'y a jamais eu de volonté de M6 de se dire « ouais, on va s'emparer du rap ». S'ils avaient compris ce que c'était, évidemment l'émission aurait duré beaucoup plus longtemps que cet arrêt en fin 93.
D'ailleurs, vous rappeliez à l'instant Olivier Cachin, c'est vrai que Rapline, c'était une émission qui avait un côté militant. Le nombre de clips que vous avez tournés, il y avait Assassin, il y avait NTM, les premiers NTM et tout, c'est vous qui faisiez les clips. Il y a même eu quelques groupes plus, on va dire, à la frontière du rap, comme FFF, comme les Babylon Fighters, qui faisaient un peu de la fusion, super groupe d'ailleurs, un peu oublié aujourd'hui. Comment c'était perçu par la chaîne, parce que Rouleur à l'heure de Sci-Sci, tout ça, enfin je me rappelle que vraiment nous on les attendait, les clips Rapline, parce que en fait sans vous ces groupes là vous remplaciez en fait, à l'époque, à l'instant vous parliez d'internet en disant aujourd'hui chacun fait son clip avec son drone et tout, mais à l'époque chacun voulait son clip dans Rapline, quoi. C'était vous la grande plateforme qui permettait de voir tout ce qui se faisait en rap français.
Ah ça c'est clair qu'il n'y avait pas, d'autre moyen d'avoir une image effectivement que Rapline. Mais M6 en fait, je vais vous le dire très honnêtement, ils étaient à peine au courant de ce qui se passait. C'est une émission qui passait alors techniquement c'était censé être vers minuit et quelques, mais comme on se prenait tout le retard de toute la journée, des fois, je me souviens de Rapline qui sont passés à 2h moins un quart du matin, enfin des trucs abstraits. Donc pour M6, à l'époque, il n'y avait pas du tout c'était pas du tout la chaîne majeure que c'est devenu aujourd'hui. C'était encore la petite chaîne qui monte. Donc ça veut dire que la pub à cette époque-là, pour, à l'époque de Rapline, une minute de pub aux horaires de Rapline, c'était genre, je me rappelle, c'était 5000 francs. Enfin, c'était des trucs, c'est-à-dire que littéralement, on pouvait se payer une pub si on voulait, pour dire n'importe quoi, tellement c'était, il n'y avait pas d'enjeu. Donc eux, ils ne regardaient pas. Ils voyaient qu'il y avait de la presse, ça ne coûtait pas cher à faire. Ils n'allaient pas plus loin que ça. Il n'y a jamais eu de velléité de censure ou quoi que ce soit, parce que pour eux, c'était un truc bizarre. Bon, voilà. Encore une fois, ça coûte rien et ça fait un peu de presse. On aime bien ça. Voilà, c'est tout. Ça n'allait pas plus loin pour la chaîne.
Bonsoir à tous et salutations rapologiques. C'est Rapline, le magazine afrocentrique.
J'instaure la prose.
Prose, symphonie de rimes.
On sent avec prestance la qualité des mots. Oui, des mots qui orchestrent.
Vous écoutez
ma musique.
Culture Prune.
J'avance invariablement, expliquant à chacun que mon délire est le rap mon élixir. Yo, alors admire.
Change chaque terme, accessible à tous, à tout moment. Par ma voix, mon rap devient puissant. Il est présent, il te prend, il t'enlace. Didier S me suit. Je te surclasse, il fait monter l'adrénaline. Scratch pour rendre vivant mon Inok S. Complètement l'harmonie de par mon style, je rafasse, façonne la phrase, caressant, domptant, sculptant les mots. Je maîtrise, que dis-je, j'excelle. Je contrôle ce domaine à un point tel que les mots, les phrases, les sons, les rimes semblent être les victimes de mon toucher, de ma pensée, de mes idées, de mon parler, phrasé, ok. Je joue, roule, danse, phase avec les phrases.
Je
Vous en parliez à l'instant, Olivier Cachin, mais vous sous-titrez les morceaux. Ça, c'est hyper important parce qu'il y a des gens, on a parlé tout à l'heure de KRS-One avec Boogie Down Productions, ça, c'était des gens qui avaient un discours très, très conscientisé. Quel regard aujourd'hui vous portez sur d'autres regards, d'autres analyses qui sont faites sur le rap et beaucoup qui disent et qui sont fondées hein, d'ailleurs, hein, par exemple sur certains propos du leader de Public Enemy, des propos homophobes, des choses comme ça. Quel regard vous portez sur tout ça aujourd'hui parce qu'il y a certains artistes, c'est vrai, dont on dit aujourd'hui que bon, en fin de compte, c'est pas des types très fréquentables dans ce qu'ils défendent politiquement.
Ah, la fameuse question de l'homme de l'artiste à séparer. Bah, disons que pour ce qui est de Public Enemy, le plus critiquable, c'était Professeur Griff, qui était de toutes les façons pas vraiment indispensable au groupe. Hein. On peut pas dire que son départ ait changé quoi que ce soit au son de Public Enemy. Après, le côté Black Power et Farrakhan et compagnie de Public Enemy, oui, c'était pas ce qui était le plus passionnant, mais en même temps, quand on connaît la mentalité noire américaine et l'histoire du peuple noir américain, on peut plus facilement comprendre ce genre de... Je ne sais même pas si on peut dire d'extrémisme, parce que ça restait très... c'était de la musique. Hein. C'était pas ni des terroristes ni des activistes politiques. C'était quand même, ça restait Public Enemy, notamment des artistes. Alors aujourd'hui, c'est vrai que par contre, quand on voit les propos d'un Kanye West, là, c'est effectivement un petit peu plus inquiétant de voir ce niveau de d'absence de connaissance aussi de l'histoire, parce que finalement, c'est un peu la même histoire qu'à l'époque où Professeur Griff disait, je me rappelle, je paraphrase, mais en gros, quand il avait dit des trucs sur les Juifs, il a dit, j'ai appris des trucs sur les Juifs, vous avez souffert les gars. En gros, genre, le gars a eu besoin d'avoir le scandale pour apprendre ce que c'était que l'Holocauste. C'est quand même un petit peu... C'est là où on se dit que l'Amérique n'est pas un pays où l'histoire de leur pays et du monde est très enseignée, en tout cas pas de façon très efficace à l'école.
Il y a un truc, moi, que j'aime beaucoup. Dans l'émission, par exemple, de Rapline, de tout jeunes membres du Suprême NTM d'invités, hein, celle où vous allez d'ailleurs diffuser le clip Le Pouvoir, vous dites un truc très juste, Olivier Cachin, vous dites qu'il faut s'intéresser à la musique et arrêter de rentrer le rap dans sa case misérabiliste, musique de banlieue, musique du pauvre. C'était aussi important d'avoir ce côté militant dans l'émission, c'est-à-dire, comme vous le disiez tout à l'heure, il y avait quand même un vrai mépris de classe en fait envers le rap.
Oui, et puis même après, chez ceux qui l'appréciaient d'une certaine façon, l'approche sociologique m'a toujours un petit peu agacé, le côté effectivement, parce que oui, bon, c'est vrai que le rap vient des milieux populaires, des banlieues, on sait, mais à un moment, ce prisme unique pour parler de cette musique, c'était agaçant parce qu'on avait l'impression que c'était... Il y avait un côté social club, les pauvres font de la musique, il faut les écouter parce qu'ils viennent... Non, il y a aussi des très mauvais groupes de rap français, encore plus maintenant. C'est pas parce qu'ils viennent de banlieue qu'ils sont bons, mais c'est parce qu'il y a eu des morceaux extraordinaires. Donc effectivement, parler de musique et pas parler uniquement de ce prisme sociétal, social... Moi, les bouquins de sociologues parlant du rap comme ils parleraient des cultures aborigènes dans la jungle d'Amazonie, ça m'a assez vite saoulé, pour être honnête.
Je voulais juste savoir comment ça s'était passé, parce qu'au départ, le générique, c'est Olivier Cachin, générique de Rapline, c'est un sample de Murder Rap, Above the Law, que vous mettez en boucle. Puis il paraît que c'est IAM qui vous file un générique après.
Mais absolument, spontanément, on reçoit la cassette. J'entendais leur accent marseillais en lisant le texte. Oui, on a fait un petit générique pour Rapline, si ça vous intéresse de l'utiliser. Et de fait, on fait « Putain, mais c'est trop mortel !» C'est là où on s'est dit « Ah là, il se passe un truc !» Et d'ailleurs, ils l'ont inclus sur leur premier album officiel de la planète Mars. Donc c'était un cadeau extraordinaire. On a fait une dizaine de numéros, une quinzaine avec, comme vous le disiez, le morceau de Zolo Murder Rap. Et puis après, Rapline, ça c'était du IAM, du Marseillais.
Akhenaton parlait, ce qui a aujourd'hui me surprend un peu quand même, de rap orthodoxe. C'est quoi le rap orthodoxe, Olivier Cachin?
C'est simple, hein. c'est deux platines, un micro, surtout pas de mélodie, on veut pas faire joli, on veut pas d'instrument, à la rigueur peut-être des percussions, un truc comme ça. C'est ce côté justement, on veut garder la pureté du style. Ce qui finalement est une démarche assez noble, qui pourrait être réductrice. Mais bon, IAM a quand même su élargir ce propos. Mais c'est vrai qu'ils ont toujours ce côté. Et on comprend par exemple ce qu'ils disent quand on voit aujourd'hui qu'il y a des artistes qui ne vont pas hésiter à sampler des trucs genre super populaires des années 80. Et quand je dis populaire, c'est pour ne pas dire quelque chose de plus désagréable. Mais c'est vrai que je ne pense pas qu'Akhenaton, quand il écoute Eus l'Enfoiré qui reprend Le Mendiant de Enrico Macias pour son refrain, soit tout à fait en accord avec ce style d'instrumentation et de démarche. Eux, ils sont plus dans un truc, plus je dirais pas jusqu'à dire de puristes, mais pas loin quand même. Et c'est ça aussi qui fait qu'ils sont encore là plus de 30 ans après leur début, hein, parce qu'ils ont gardé une ligne de conduite. C'est quand même un groupe qui a essayé de tuer le succès du Mia. C'est, les gens ne se rendent pas compte, mais ils ont refusé d'être sur les compilations genre Boulevard des Hits, Énergie et compagnie. Ils ne le jouaient quasiment plus sur scène à un moment. C'est très français comme démarche de refuser le succès grand public quand il devient trop grand. Un succès populaire peut détruire un groupe ou le réduire à ça. Et c'est ça, c'est la même problématique qu'avait eu en termes d'album Michael Jackson avec Thriller. Son angoisse, c'était comment je peux faire mieux maintenant ? Il faut que je fasse mieux maintenant. Il voulait vendre 100 millions de bads. Et c'est vrai que le Mia Dayam, Tomber la chemise de Zebda, ouais, c'est des trucs qui définissent tellement un groupe que bah, on peut facilement devenir Patrick Hernandez et Born to be Alive. Hein. Ceci étant, Patrick Hernandez, qui, il le disait récemment dans une émission télé, gagne encore aujourd'hui entre 700 et 800 euros par jour. Bon, moins les frais, les taxes et tout, mais avec cet unique morceau qui, depuis 45 ans, lui a construit sa maison et sûrement sa résidence secondaire aussi. They clever at the level of a scientist with fist, list, mind, fist, pump, jump, and don't miss. So I'm a Johnny Grudge against the enemy and any other nigga with an attitude. See, and any other rapper who's a brother trying to speak to one another gets smothered by the other kind. Not so divine, so I heard to the great mind. Send the fence out to kick my time. Yo, to go front to a 90-91 level. While the circuit for my 90 to accelerate the race. From the chase, look at my face and they hate, but they don't want it to face to take great. Can I live my life without them treating every brother like me? Like I'm holding a knife, the right time to smack who's the same. I don't give a damn. Look at the flag above the flood without credit. Like it close to the edit. I said it, you read it, just remember who said it.
Vous écoutez le journaliste Olivier Cachin au micro de Culture Prohibition. En 1993, bon, parce que vous le dites, Rapline s'arrête au moment où le rap prend son essor en plus, ce qui est assez étrange, mais c'est comme ça. Mais vous travaillez sur d'autres émissions, vous avez travaillé sur Faxo, sur M6, Le Mag, sur MCM, et là vous ne pouvez pas vous empêcher, c'est-à-dire qu'au milieu d'invités plus classiques comme Goldman, par exemple, Jacques Goldman bien sûr, vous invitez NTM, vous allez à la rencontre de James Brown, il y a aussi Stomy Bugsy, Doc Gineco. Vous continuez en fait à défendre bec et ongles cette musique qu'est le rap.
Bah oui, parce que encore une fois, la logique de M6, c'était genre bon, bah super, Rapline s'est cartonné, donc maintenant on va te donner une émission avec une plus grande audience et une programmation plus large, parce qu'on est passé quand même à la fin, je crois qu'on était le mardi soir, donc toujours à 1h du matin. Là, je passais au mercredi 18h, donc c'est vrai que c'était. Et c'est le deal, c'était effectivement d'avoir une programmation beaucoup plus large. Donc oui, c'était du Bashung, c'était du Goldman, c'était un reportage sur les Stones. Et autant que faire se peut, ben, je glissais quand même aussi quelques-uns des groupes ou des artistes que j'appréciais, dont des rappeurs français, américains, qui rentraient aussi dans ce cadre, mais qui n'étaient plus les exclusifs comme ils le sont, comme ils l'étaient dans Rapline.
Alors, pour rester dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'audiovisuel, vous êtes aussi un réalisateur de pas mal de documentaires musicaux. Hein. C'est quelque chose qu'on aborde moins souvent quand on parle de vous. On parle souvent de vos livres, qui sont aussi très nombreux. Mais là, sur les documentaires musicaux, vous avez aussi beaucoup, beaucoup travaillé. Vous avez fait beaucoup de choses. Hein. La saga du hip-hop, Michael Jackson, l'histoire des musiques noires. Vous avez aussi fait toute une série pour 13 TV où il y avait plein de choses très intéressantes, en particulier, moi j'aime bien celui sur le Golden Age. Est-ce que vous envisagez de refaire des documentaires? Et puis quel souvenir, quel plaisir vous avez plutôt, je veux dire, à faire ce travail de documentariste?
C'est effectivement assez intéressant parce que ça amène d'autres, c'est une autre façon de mettre en scène la musique et les artistes. Le dernier que j'ai fait, c'était sur C17 avec Sombrero Productions. C'était un 90 minutes sur NTM où là on s'est régalé parce que qui est co-réalisé avec Olivier Richard et qui est une espèce de somme où on a interviewé une quinzaine de personnes dont Joe Star là qui a été royal. J'ai fait une interview de 2 heures, il était formidable, et puis Yazid et puis plein de gens de l'époque. Donc c'était assez, en plus 90 minutes, on a vraiment le temps de s'attarder sur vraiment l'histoire et quelle histoire pour ce qui est de NTM. Donc oui, faire des docus, après ça dépend des productions, hein, parce que faut quand même savoir qu'il y a encore pas si longtemps, il y a quelques années, j'étais avec une boîte de prod et ils avaient un projet justement autour du rap français. Et la réponse de France Télévisions, c'était c'est pas assez populaire. Et je parle pas d'il y a 15 ans, hein, je parle d'il y a 3-4 ans. Donc c'est vous dire qu'il y a encore, de l'espace d'évolution par rapport en tout cas aux grands médias que sont les télévisions hertziennes, celles qui ont vraiment les moyens, mais pas forcément l'ambition de faire beaucoup plus que Taratata.
Alors, Olivier Cachat, on a parlé beaucoup là de votre travail à la télé, mais vous travaillez aussi beaucoup, ce qui est logique, hein, pour quelqu'un qui est défenseur de musique. Vous travaillez beaucoup pour la radio aussi, vous avez fait beaucoup de choses pour la radio. Vous semblez très attaché à la radio, d'ailleurs c'est un média que vous n'avez quasiment jamais quitté, Move Génération, la collection rap, enfin, il y a plein de choses que vous avez fait à la radio, que vous continuez de faire, je crois d'ailleurs. La radio, pour vous, c'est très important?
Bah, c'est vrai que c'est un média qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus direct que la télévision, où il y a beaucoup plus de filtres. Là, à l'heure actuelle, je suis plus sur Move, mais je fais beaucoup de chroniques sur RTL avec mon camarade Eric Jean-Jean, sur Bonus Track notamment. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un côté immédiat avec la radio. Là, hier, j'étais justement avec Eric au Salon d'Agriculture, on a fait un focus sur Prince. Donc c'est assez amusant. Et puis il y a un côté très très instantané, quoi. On est en prise directe avec les auditeurs. C'est effectivement. Après, j'aime aussi beaucoup la presse, mais ouais, la radio c'est assez passionnant quand même, faut le dire.
Vous êtes aussi auteur de bouquins. Alors là, par contre, il y a un nombre de livres hallucinants que vous avez écrits, pas que sur le hip-hop d'ailleurs. Sur le hip-hop, j'en ai dénombré. Allez, on va dire une quinzaine, mais je suis sûr qu'il y en a plus. Je suis sûr que je me suis planté. Et récemment, vous avez fait paraître deux ouvrages. Enfin, c'est parmi les plus récents que vous avez fait paraître, je trouve. Et puis aussi, qui traduisent pour moi deux choses très importantes. La question de Passeur, parce que vous avez fait un ouvrage préfacé par Soprano, qui est paru chez Flammarion Jeunesse, qui s'appelle Rap Story, l'encyclopédie du rap. Et puis, après, quelque chose de plus important en termes d'analytique, vraiment centré sur le rap français, avec l'émergence du rap français, Rap in France, l'émergence du rap français dans les années 90 au Castor Astral, et préfacé cette fois-ci par Orelsan, Soprano, quand même deux rappeurs aujourd'hui à succès, mais qui font pas le même type de rap non plus, on va pas se mentir. Moi, personnellement, je vais préférer Orelsan à Soprano, est-ce que vous revendiquez, vous, à travers tout ce travail, le fait d'être un passeur ?
De fait, oui, c'est vrai que c'est quelque chose. Moi, l'idée de transmettre, c'est passeur, oui, mais parce que c'est une passion. C'est-à-dire que moi, quand j'aime quelque chose, j'ai envie que mes amis ou les gens que je ne connais pas puissent aussi l'apprécier. Et c'est vrai que... C'est vrai que c'est assez sympa d'entendre des gens qui disent, parce que maintenant ça arrive de plus en plus, vu que j'arrive à un certain âge, voire un âge certain, de croiser des conducteurs de métro, des gens dans la rue, des chauffeurs de taxi qui disent « Ah ouais, ah c'est super, grâce à vous, j'ai appris plein de trucs, vous m'avez éduqué, j'ai découvert tel ou tel groupe ». C'est vrai que ouais, c'est quelque chose d'assez sympa parce que finalement… ça montre que la passion, c'est quelque chose qui se partage. Donc faire passer la passion, ça me va.
Avec le livre Rap in France, c'est ce qu'on disait à l'instant, la préface est d'Orelsan. Vous apparaissez aussi dans un de ses clips. C'est assez rigolo. Comment se passe votre relation avec Orelsan? Parce qu'on sait que vous avez beaucoup travaillé avec Joe Star. Mais avec Orelsan, c'est presque plus surprenant, j'ai envie de dire.
En fait, je l'ai rencontré assez tôt, puisque mon premier flash avec Orelsan, c'est quand il fait sa résidence à la Boule Noire. Là, il a fait quatre mercredis où il faisait des concerts, donc avant la sortie de l'album, du premier album. Et je vois quand il fait changement, la salle, bon, c'était pas une grande salle, hein, la Boule Noire, mais qui était quand même correctement pleine, il y a plein de gens qui connaissent les paroles. Et je me dis, ah ouais, d'accord, le gars n'a pas sorti de disque, mais il a déjà une fanbase. Et il avait déjà le petit délire avec les jeux vidéo, le tournoi, la Tekken, machin et tout. Donc, je l'ai interviewé assez vite. J'avais même été le voir chez lui dans son premier appart parisien, qui était un tout petit truc qu'il avait acheté avec le succès de son premier disque. Et c'est quelqu'un qui a toujours eu... moi, c'est ça que je trouve génial, c'est des artistes qui arrivent à rester les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé de numéro de téléphone. Justement, pour cette préface, ce qui est amusant, c'est que bon, je lui avais envoyé un message ou deux, laissé quelques vocaux. Et puis, je me dis, peut-être que là, il me rappelle, c'est ouais, désolé, vraiment, là, tu sais, j'étais un peu en famille et tout, pardon de ne pas t'avoir rappelé. Enfin, je veux dire, le mec est le numéro un des ventes, des concerts, de tout, et il s'excuse de ne pas avoir rappelé plus tôt. Alors que les trois quarts dans le même cas n'auraient même pas pris, auraient simplement changé de numéro de téléphone et seraient passés à autre chose. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours ce côté. En plus, ce qui est génial, c'est que lui, c'est le faux glandeur. Il donne l'impression de rien faire, d'être un petit peu comme ça, bouffe. Et quand on regarde la somme de ce qu'il a fait en cinéma, en télévision, en vidéo, en musique évidemment, en concert, enfin, le gars n'arrête jamais. Et pourtant, on pourrait croire que c'est un mec un petit peu genre bouffe, un peu lymphatique comme ça. Ouais, des lymphatiques comme ça. On en a besoin de beaucoup plus dans la musique.
c'est sûr qu'il a une production pléthorique. Hein, ça, c'est assez impressionnant. Avec en plus, j'ai l'impression que c'est un gars qui aime avoir une maîtrise totale sur ce qu'il fait quand même.
Oui, ça, il est, il sait ce qu'il fait. Et quand il le fait, il peut le revendiquer. Il n'y a pas de hasard.
Pour conclure cette interview, j'ai envie de vous poser, Olivier Cachat, une question qui est un peu une question... on va dire entre guillemets, question un peu à la con, voilà, je vais le dire franchement. Mais quand même, j'ai envie de savoir si vous deviez garder, alors je ne vous donne pas le nom, mais quelques disques mythiques du rap français, du rap US, vous vous retrouvez sur une île déserte, qu'est-ce que vous prenez avec vous comme disque, Olivier Cachat ?
Oh, pour le rap français, je ne vais pas être original et je vais rester fidèle à ce que j'ai déjà dit de nombreuses fois, ces premières consultations de Doc Gineco, parce que c'est un album absolument... phénoménal dans la production, dans les textes, dans l'originalité, dans la prescience qu'il avait de comment le rap avait évolué, avec de la musicalité, ce son West Coast, tout ça, donc c'est magnifique. Bon, pas loin derrière, il y aurait l'école du micro d'argent et Mauvais œil de lunatique, pour un peu plus de hardcore et de sombritude, comme dirait l'autre. Pour ce qui est du rap américain, c'est plus difficile, mais ça serait forcément dans la old school. Je dirais le troisième album de Public Enemy, Fear of the Planet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent It Takes a Nation of Billions to Hold Us Back, mais moi c'est vraiment Fear of the Planet où je trouve qu'ils atteignent leur sommet. Pour être un petit peu plus récent, Eminem et Dr. Dre, hein, que ça soit 2001 de Dre de Marshall Mathers LP pour Eminem, les deux se complètent. Et puis pour ajouter une petite note un peu plus personnelle et plus underground, un rappeur que j'ai adoré et qui a commencé plutôt comme amuseur, c'est Blowfly, qui, avec des albums comme Electronic Banana, Fresh Juice, propose un rap classé X, un peu comique, un peu cul. Je dirais l'album Porno Freak de Blowfly, où là on a vraiment toute l'étendue de son talent et de sa merveilleuse saloperie classé X, impassable en radio aux États-Unis en tout cas.
Vous travaillez sur quelque chose en ce moment, livre, émission, documentaire, voilà. Est-ce que vous avez des projets en ce moment, Olivier Cachat, qui tourneraient autour du hip-hop encore ?
Alors, des projets, oui. Alors, le prochain, c'est pas autour du hip-hop, en tout cas pas vraiment, mais c'est un livre que je coécris avec Éric Jean-Jean et qui devrait sortir dans les mois qui viennent, sur Jacques Dutronc et sa carrière en chanson. Une vie en chanson avec donc les un peu plus de 50 morceaux de Jacques Dutronc analysés, commentés.
puisque c'est quand même un des grands génies de la chanson française, et d'ailleurs admiré notamment par Tommy Bugsy, qui a fait un duo avec lui et que j'ai interviewé pour le bouquin.
Ok, bah merci beaucoup. Bah j'ai juste envie de vous dire tchakso, alors, voilà.
Eh ben tchakso, Jérôme, et une bonne journée et de bonnes émissions radio à venir.
Yeah. Tres lenguajes, that means three languages. Dr. Nicole, welcome to Los Angeles. Here we got the pretty girls, aquí tenemos la nena bella. Send the ugly ones, aquí tenemos la nena bella.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
J'ai visité la seconde capitale où les baskets sont blanches et les mecs s'appellent Timal, Stony, Bouboule, Getch, Patsy et Kenzie. Des mecs sans faille qui tirent et ciao, bye bye. Ok, je stoppe sur les détails car je sais que tu bloques sur la secte Abdoulaye. Et si maintenant je rappe et que mon style décape, d'accoup pas d'accoup.